Et merci de nous retrouver en ce mois d'avril. Nous sommes ensemble pour notre émission mensuelle consacrée à la culture, la langue occitane. Je vois un joli sourire, Jean-Claude Dugros, Marianne Désert. Bonjour
adieu,
à tous les deux.
Adieu.
Adieu tout le monde.
Et oui, en ce mois d'avril, on ne va pas se découvrir d'un fil.
Non.
Mais on va écouter la radio.
Alors, le mois d'avril, donc, comment on dit avril ?
En occitan. Abril.
Alors, il y a plusieurs possibilités. Donc, tu peux dire. tu dis avril, tu as gagné.
Ah. Alors, avril. J'ai fait des progrès, vous avez vu, j'ai travaillé, mon cher Jean-Claude.
Bravo.
Avril, c'est abril ou surtout abrial dans le sud du Périgord. Mais, mm-hmm. Comme ici, on est dans le sud du Périgord, on va dire abrial. Dans la moitié nord, c'est abriou. Et des fois, ils disent abriaou. Mais bon, il n'y a pas beaucoup de différence, c'est ce qu'on a remarqué. Mm-hmm. Depuis l'équinoxe du printemps, nous sommes au temps coucudaou, c'est-à-dire la saison du coucou. Et oui, ça te fait rire.
Oui, parce que chaque année, on parle du coucou, et il paraît que lorsqu'on entend le cri du coucou, voilà. Il faut se rouler dans la paille.
Il faut avoir des sous à la poche. Donc, l'équinoxe de printemps se poursuit jusqu'à la mi-avril, ou un peu plus. On l'oublie ensuite un peu, jusqu'à son départ, avant les moissons. Tout ce qui naît dans cette période est coucudaou. Être coucudaou n'est pas un trop bon présage, c'est néanmoins préférable, comme nous le verrons le mois prochain à une naissance en mai. Mais ce coucou, s'agit-il de l'oiseau ou de la fleur ? Les deux, bien sûr. Mais à observer les proverbes, on voit bien que c'est de l'oiseau qu'il est surtout question. Son premier chant, chaque année, est le signe de l'éternel retour. Signe que le cycle des saisons suit bien son cours habituel. Quand sera-t-il quand, comme d'autres migrateurs, il sera devenu sédentaire ? Eh oui, réchauffement climatique. Dans les proverbes, l'eau cèse et d'abrial, ben l'on pas mal belle ce qui est fial. Les petits pois d'avril ne sont jamais plus gros que des fils. On vous l'avait bien dit qu'il fallait les semer à la Sainte Catherine, ou sinon en février. Les proverbes pessimistes nous disent que ce n'est pas mieux qu'hier, qu'avril est aussi incertain que mars, et parfois pire. Il lui arrive même de défaire ce que Mars a fait, d'opérer un retour en arrière dans la logique des saisons. Car Mars abrilège, abriou marsège. Car Mars se prend pour avril, avril joue à Mars. Tout ce qui naît au mes de Mars, abriou nénès goulard. Tout ce qui naît en Mars, avril en est avide. Ainsi gèle les jeunes fruits issus des fleurs de Mars. C'est vrai que heureusement, ils nous disent aussi que ce sera mieux de même. Quand l'eau vient nice en abril, emplis barico et mai barrio. Quand l'eau vient nice au mes de mai, nous emplis en guerre au mai. Quand le vin naît en avril, il emplit barrique et baril. Quand le vin naît au mois de mai, il les emplit encore plus. Il faut comprendre que quand la vigne est belle, elle promet. Car de raisin, il n'en est pas encore question, bien sûr.
Ah mais la fleur sort assez rapidement.
Voilà.
Et s'il y a une gelée sur la fleur, on est mal parti.
Aïe, aïe, aïe. Alors une variante. Razine d'abriou, emplis l'oubariou, razine d'émaï, emplis l'oussia, l'ouchaï. Raisin d'avril emplit le fût, et le raisin de mai emplit le fé. Emplit le ché. Abriou de orendre et amaï l'oufouillat, si que nous sera fouillat. Avril doit rendre à mai les frondaisons, sinon il sera fouetté. Tout ça, c'est nos anciens qui avaient un sens de l'observation extraordinaire et qui voyaient que si jamais les feuilles ou les fleurs arrivaient au mois de mars, au mois d'avril, etc. Voilà. Alors, on va voir. Alors, au mois de mars, malheureusement, comme on vient de dire, au mois d'avril plutôt, neige ou pas neige, il faut s'attendre à des jours froids et à des gelées matinales. La lune d'avril, plus connue sous le nom de lune rousse, est toujours redoutable. Je me rappelle de ça, moi, quand j'ai entendu la lune rousse, les agriculteurs, ils en ont peur. Hein. Lune d'avril passe pas Saint-Giaou. Eh oui, lune d'avril ne passe pas Saint-Gel. La gelade de lune rousse ruine la plante et maille la souche. Les gelées de lune rousse ruinent la plante, les pousses tendres de la vigne et même la souche. Ouais, moi, je l'ai entendu dire, oui, que la. Quand il gelait à la lune rousse, ça, non seulement ça gelait les fleurs, ou les feuilles, les bourgeons qui arrivaient, mais ça pouvait très bien tuer carrément le pied. Oui, oui. Nos anciens étaient très, très observateurs. Alors le mois d'avril, éphéméride, 1er avril, qu'est-ce qui se passe le 1er avril ?
C'est le poisson d'avril. Et là, on fait des farces.
Non, mais où va se cacher la culture, je vous jure. Éphéméride d'avril. Prumier d'Abriou. Même si Saint-Macaire et Saint-Hugues, que l'on fête en ce jour, ont eu quelques succès locaux au hit-parade des bons saints, aucun proverbe ne leur est dédié. C'est curieux, le 1er avril, on oublie complètement les saints, c'est Saint-Macaire et Saint-Hugues. Par contre, au 1er avril, le coucou tourne, mort ou vieux. 1er avril, le coucou revient, mort ou vif. Ça, c'est pareil, je l'ai entendu 100 fois, ça. Entre mars et avril, le coucou chante si est vieux. Oui, le coucou chante s'il est vivant, bien sûr. 1er avril, le pinceau doit boire sur le buisson. 1er avril, le pinceau doit boire sur le buisson. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'il pleuve. Alors voilà, donc au mois d'avril, on a la Saint-Valéry, le 14 avril, vers Saint-Valérien. Non, c'est Saint-Valérien, pardon, c'est un garçon. Vers Saint-Valérien, l'arbre égaïsse et la fruit chauvin, dont l'arbre fait des rejets et les fruits se forment. Encore le 15 avril, Montrouville, per le 15 d'avril, faut que le coucou aille chanter. L'incroyable, c'est que le coucou a une incidence. Alors, le 20 avril, c'est la Saint-Astier. Alors, Saint-Astier, notre village en Périgord, il ne s'appelle pas Saint-Astier, il s'appelle Saint-Châtier. Ouais, c'est, d'ailleurs, en principe, on fait toujours on ne dit pas Saint-Astier, on dit Saint-Châtier. Comme on dit Saint-Chamassi, c'est un Saint-Amassi.
Comme on disait apparemment Saint-Chavi, au lieu de dire voilà. Saint-Avi.
Exactement, c'est la même chose. Ouais. C'est curieux. Hein.
Mais ça a complètement disparu dans l'usage ici, puisque moi je l'ai appris très très tard.
Ah, ouais. Il nous fallait bien citer ce saint, né en Périgord et mort en 640, je parle de Saint-Astier. Il eut un certain succès dans la région. Ce nom de baptême devint un patronyme relativement fréquent. Et pourtant, nous n'avons trouvé aucun proverbe le concernant. Il en est souvent ainsi des saints locaux. La forme occitane classique est Saint-Chastier. Saint-Georges, alors Saint-Georges, c'est le 23 avril. Ça, c'est célèbre, c'est la fête des cavaliers. Voici le premier des saints chevaliers, ces méchants chevaliers qui sont au nombre de 4, comme les annonciateurs de l'Apocalypse. Ils nous ramènent au moment où la végétation est en pleine activité, les gelées tardives ou le mauvais temps. Voilà, les saints de glace.
Très important.
Christophe, les 4 chevaliers, dont Saint-Georges, Saint-Marqué, Saint-Troupé, mais on en reparlera peut-être au mois de mai. Mm-hmm. Voilà, donc Saint-Marc, après le 25 avril, alors là par contre, Saint-Marc, Monarudo, Clesco, Fendudo. Quand la Saint-Marc est maussade, les noyaux sont fendus. Il y a une version du sud, Saint-Marc est un rufat, osses mau pendiat. Saint-Marc revêche le noyau mal pendu. Saint-Marc est trempo porto parento. Quand il pleut d'abondance à la Saint-Marc, on ne s'enrichit pas. Après, on a la Saint-Robert le 29 avril et on a la Saint-Estropie. Alors, Saint-Estropie, c'est Saint-Trope.
Ne pas confondre avec Saint-Tropez. Hein.
Alors, non. En occitan, on l'appelle Estropie, ce qui nous donne le droit de faire localement le Saint-Patron des Estropiés. On l'appelle aussi Troupette, et c'est sous ce nom qu'il est le troisième des 4 chevaliers. Encore un dédoublement de personnalité, le vrai Saint-Trope ne fut pas non plus chevalier. Saint-Estrope et Mouliat fait pourrir la cireise. Quand il pleut trop à la Saint-Trope, ça fait pourrir les cerises. Un Saint-Estrope et Mouliat, per la fruche et per la gêne, et foutre même bien nous mat. Un Saint-Trope arrive mouillé, pour les fruits et pour les humains, il est fichtrement bien nommé. Et puis on conclut en disant, quel que soit le temps et l'état du sol, il faut semer des haricots verts le jour de la Sainte-Trope. Ah. Est-ce que tu y penseras, Christophe ?
Je prépare mes graines et on va les planter.
Voilà.
On va les semer.
Dans tous les cas, mon papa disait toujours, c'est pas la peine de planter tes tomates avant la fin avril.
Ah oui, c'est vrai. Et je sais qu'il y a...
Oui, on prend des risques, hein, sinon il faut mettre sous serre.
Le 1er mai, c'est la foire à la tomate à Nérac, dans le Lot-et-Garonne. Oui. Enfin,
ce mois d'avril, on trouve beaucoup de troc de plantes. Hein, ah voilà, oui. Si vous avez envie de commencer à préparer vos...
C'est le printemps, quoi. Ça y est.
Ouais, ça chante. Hein.
Ça y est.
Ah, mais il faut vraiment garder à l'abri tout ce qui est gélif, hein, parce que c'est quand même pas encore le moment.
Allez, on va entendre un peu de musique.
On va faire du bruit.
Qui boulego, qui bouge, goula masque.
Voilà, c'est un peu de ska, c'est un petit peu moderne, hein, mais voilà, ils sont assez bruyants, mais assez efficaces, paraît-il.
Et ça s'appelle Mon País, Mon Pays.
On les écoute. Hein. Voilà, on fait du bruit avec Goulamasque à l'instant sur Radio Anterre. Hein.
Goulamasque qu'on a vu à Bergerac d'ailleurs. Et
puis ouais, là, très bien. Ils étaient venus à la traverse, me semble-t-il.
Oui, pour l'anniversaire de la Calandrette.
Il n'y a pas longtemps.
Exactement.
Et les enfants s'étaient bien démenés sur scène. C'était trop, trop drôle.
Ça, il faut le croire. Oui,
voilà, et on salue d'ailleurs l'école occitane de Bergerac qui régulièrement nous propose des rendez-vous, des opérations vide-grenier, des portes ouvertes. Ils sont assez dynamiques et on les salue.
Et les enseignants sont formidables.
Voilà, donc ils nous écoutent, je sais qu'ils nous suivent aussi. Alors, la culture occitane ne passe pas que par les oreilles.
Et non.
On peut la déguster.
Et non, et en ces jours de froidure pluvieuse, moi je pense à faire de la cuisine.
C'est très bien.
Et croyez-moi, c'est pas souvent, mais là... vraiment, on a envie de crêpes, envie de...
La cuisine occitane, elle est très riche.
Voilà. Et donc, j'ai découvert que les galettes de sarrasin n'étaient pas réservées qu'aux Bretons.
Et non.
Non, mais on appelle ça le pourtout. Donc, je suppose que ça s'écrit T-O-N à la fin. Ça se faisait avec de la farine de sarrasin, un peu épaisse. Et ça servait de pain quand on n'avait pas de quoi manger. J'ai découvert ça par hasard en écumant un petit peu le net, parce qu'on n'en entend pas du tout parler. C'est-à-dire que les marques et le lobbying des régions pour arriver à attirer un peu de touristes sur leurs terres a fait qu'un grand nombre de recettes sont maintenant, on va dire, attribuées à des régions en particulier, alors qu'en réalité... On faisait à peu près tous la même chose, avec les mêmes ingrédients. Évidemment, la cuisine bordelaise n'est pas tout à fait la même que celle du Périgord, parce qu'à Bordeaux, il y a la mer. C'est vrai, il y a la mer. Et des passages différents, parce que les marins qui faisaient toute la côte pour travailler dans les conserveries de poissons, etc., ça modèle un peu la cuisine différemment. D'accord. Mais, alors, du coup, nous, on est quand même associés en Périgord et limitrophe au magret, au confit, aux escargots, la sanguette. Moi, j'ai toujours entendu parler de mique corrézienne, mais il y a aussi la mique sarladaise.
Ah oui, malheureux.
Malheureux, on sent le connaisseur.
Sarla. Ah non, non, mais Sarla, si tu leur dis à Sarla, c'est la mique. Hein. Non. Ah, oui, mais elle est excellente, d'ailleurs, elle est très bonne. Hein. Non, mais ils ont raison, ils défendent leur mique sarladaise, ils ont raison.
Mais le grand public ne le sait pas. Plus vraiment aujourd'hui, à moins d'être un aficionado de la cuisine locale. Moi, je me souviens du tourin à l'ail.
Ah oui.
Que ma mère appelait la soupe du pauvre.
Le soir du mariage, non?
Non, pas forcément. Moi, j'en ai beaucoup mangé et j'en fais toujours. Ma mère appelait ça la soupe du pauvre avec tendresse, parce que ça lui rappelait des choses. Mais en fait, c'est une soupe simple et très rapide à faire. Donc le tourin, je ne sais pas si on en parle dans les autres régions, mais ici, le mot tourin est un mot assez courant, finalement, dans le vocabulaire de la vie de tous les jours. Donc, finalement, on est quand même associé à des recettes emblématiques qu'on retrouve toujours dans les livres. Donc, j'ai fait une petite collection de livres. J'ai fouillé un peu dans la bibliothèque, j'ai regardé sur Internet. Et d'habitude, je me sers du Ginette Mathiot. Mais Jean-Claude, tu ne connais pas Ginette Mathiot?
À la maison, on la cuisine.
Dans le livre de poche pratique, édité, réédité, réédité, qui contient quasiment toutes les recettes classiques de la cuisine française, avec une table alphabétique, etc., des rubriques, voilà, les poissons, les viandes, les fruits, etc. Donc, en général, je me sers du Ginette Mathiot. On veut faire une recette à la maison, on dit, tiens, où est le Ginette? Voilà. Sauf que, on oublie complètement qu'il y a des livres presque aussi complets sur la cuisine périgourdine, et en tout cas la cuisine du Sud-Ouest. Souvent, ces livres sont un petit peu caricaturaux. Là, par exemple, j'ouvre une petite édition de West France, un cahier qui s'appelle « Les meilleures recettes périgourdines ». Et alors là, à la rubrique... pour présenter le Périgord, je lis « L'animal symbole du Périgord est l'oie. Elle s'accommode de multiples façons. Son foie avec ou sans truffe satisfait les gastronomes les plus délicats. » Sa chair longuement rissolée dans sa propre graisse et conservée au pays dans de grands pots de grès permet de traiter royalement tout convive attendu ou fortuit. La peau de son cou farcie selon goût ou saison se transforme en merveilleux saucisson que l'on déguste chaud ou froid, seul ou en compagnie de légumes du terroir. C'est à croire que tous les périgourdins mangent du confit tous les jours. La carcasse, pauvre squelette anonyme, rehausse les soupes que la célèbre fricassée réalisée avec les abats non encore utilisés est déjà venue agrémenter. Une sauce de grand renom baptisée Périgueux et quelques gâteaux rustiques, pour ne pas dire rustiques, mais exquis, viennent clore un menu qui, s'il ne satisfait pas les diététiciens, ne laisse personne indifférent. Bon appétit. Voici comment se termine l'introduction de ce petit livret dont le lyrisme oui. N'a d'égal que le nombre de calories de chacune de ces recettes. Parce que là, on en est... Alors, il y a évidemment les perdreaux aux morilles, le faisan au verjus, le canard farci aux champignons sauvages, la mique levée, les cèpes à la sarladaise, etc., etc. Ça, c'est un petit peu caricatural quand même, hein, parce que la cuisine de tous les jours était autrement plus simple, forcément. Alors, il y a une curiosité. Alors ça, ça ne date pas d'hier. C'est 71, chez Pierre Fanlac, Science de gueule en Périgord. Donc, ce livre-là, il est un peu étrange de mon point de vue, parce qu'on a l'habitude de voir les recettes avec des quantités, avec des listes d'ingrédients. Alors que là, c'est rédigé. Il y a un petit paragraphe par recette et ça va être les cèpes à la vieille mode périgourdine, alors avec tout un tas de conseils, mais pas de quantité. Par exemple, jamais de fer, de fonte, d'émail ou d'aluminium, ce sont des œuvres du diable pour les cèpes. Voilà. Et on vous dit comment faire, quels sont les secrets de la réussite, mais sans aucune quantité. Donc ça, c'est quand même très intéressant, parce que c'est quand même plutôt une œuvre de littérature. Et, oui, et c'est de Georges Rocal.
Oui, il faut dire que Georges Rocal, c'était un prêtre, et donc, en principe, ces gens-là connaissent la cuisine, connaissent le bien manger, et savoir... Et
Georges Rocal, mais ce n'est pas forcément eux qui font la cuisine.
Ah non, non.
Mais et je pense que c'est peut-être pour ça.
Mais Georges Rocal, il a écrit des livres magnifiques sur le Périgord.
Oui, d'ailleurs, alors si on ouvre, là, je pense qu'il y a une liste de ses œuvres.
Ah oui, là, il a écrit.
Et il a écrit Les fils émancipés de Jacou le Croquant, Croquant du Périgord.
Oui, voilà.
C'est lui qui a écrit Les vieilles coutumes dévotieuses et magiques du Périgord.
Ouais, ça, c'est
très,
un grand classique. Ah oui, ça, c'est
très intéressant. Donc voilà, ce livre, si vous le trouvez, il y a de très jolies gravures, pas très nombreuses, mais c'est quand même très joli. C'est un beau livre que vous pouvez trouver probablement en foire à la brocante.
Oh,
parce que ça, c'est quand même introuvable. Hein, voilà.
C'est intéressant de savoir que ce monsieur, il était capable d'écrire des choses. Ah, oui, d'écrire des choses magnifiques, et pourquoi pas, il s'est intéressé à la cuisine, pourquoi pas.
Alors, ensuite, un classique aussi, Mazille.
Le grand classique.
Le grand classique, La Mazille, la bonne cuisine du Périgord chez Flammarion.
Ah, oui.
Alors, ça date, hein, là aussi.
Oui, mais c'est réédité régulièrement.
1987.
C'est réédité régulièrement.
Alors là aussi, je pense que l'éditeur s'est fait plaisir sur la quatrième de couverture, c'est très lyrique. La cuisine du Périgord est liée aux richesses de son terroir. Truffes, gibiers, champignons, oies, poissons de rivière. Cette région, une de celles où on mange le mieux en France, d'après Kurnonski, est une source de recettes savoureuses. Confit d'oie à l'oseille, coups d'oie farcis, anchois truffés, bouillon de noces, omelette aux cèpes, morille au verjus, truite de brantôme, mique de maïs, miyassou au miel, tourtière de fruits. Des recettes réunies par La Mazille, une péricourdine qui a su se faire compter les recettes orales, les a mises au point et en propose ici plus de 400. Des soupes au dessert en passant par les recettes à cuire sous la cendre, les liqueurs et les confitures. Là, j'ai mangé pour la journée.
Ah oui.
Alors ensuite, nous avons une petite curiosité qui s'appelle les recettes périgourdines de Tante Célestine, toujours aux éditions Ouest France, mais cette fois-ci reliées et joliment reliées, avec une couverture qui ne se tache pas, super pour la cuisine, une police de caractère du style manuscrit, Et avec un certain nombre de recettes, je pense qu'avec ça, vous pouvez quand même manger sans vous ennuyer pendant une bonne moitié de l'année. C'est pareil avec des rubriques, une table des recettes, etc. C'est joliment fait. Voilà, je vous le conseille. Je ne sais pas si on peut le trouver.
Et l'auteur
Alors, l'auteur, j'ouvre. Voilà, recette recueillie. Là, il y a l'honnêteté aussi, oui. le souci de dire que c'est un collectage par Françoise Bonis, avec des illustrations de Marie-Brigitte Voix et graphisme de Marie-Annick Voix. Donc, c'est presque une affaire de famille, on va dire. Donc, c'est aux éditions Ouest France et je crois que c'est assez récent. Je ne veux pas dire de bêtises. 97.
Ah oui.
Voilà, c'est un joli petit livre qui a sa place à la cuisine, à mon avis. Voilà. Alors ensuite, Les secrets des fermes en Périgord noir, qui est une...
Un grand classique aussi.
Un grand classique, vraiment un livre à peu près introuvable, que vous trouverez assez cher sur eBay ou Le Bon Coin, de Zette Guinaudot-Franc. Ça fait partie d'une collection qui s'appelle « La cuisine paysanne en France ». Et ce livre est vraiment intéressant parce qu'on peut presque dire qu'il y a une démarche ethnographique, oui, avec des photos d'anciennes cartes postales, avec même des dessins des ustensiles de cuisine qui nous ont suivis jusqu'à la moitié du XXe siècle, on peut dire, dans certaines maisons. Très, très intéressant parce qu'on raconte le geste de vider le poisson, comment on le fait, dans quels ustensiles, etc. C'est vraiment une leçon de contextualisation de la cuisine. Voilà. Donc ça, il est à peu près introuvable. C'est un beau livre relié qui doit faire dans les 320 pages, par là, avec un index alphabétique. Si vous avez l'occasion de le trouver, ne le bazardez pas. Gardez-le précieusement. Ça fait partie du patrimoine. D'ailleurs, en quatrième de couverture, je ne résiste pas à vous lire, vous ne connaissez pas Zette Guinaudot, ses caprices, ses scènes de fausse colère, sa pudeur et sa tendresse. Ce livre est comme elle, inattendu, plein d'un charme oublié et nourri des mille secrets auxquels on ne peut avoir accès que grâce à un véritable initiateur, grand-mère confiture ou oncle curé. Ça vaut son pesant d'or quand même. Et je terminerai en parlant du seul petit livre avec de l'occitan, parce que je crois qu'il a été traduit en occitan, ce sont les La cuisine d'autrefois en Périgord, recettes de nos grands-mères, éditées par les Abeilles Bergeracoises.
Ah oui.
Pour 12 euros.
Ah oui, c'est vrai.
Alors, je n'ai pas réussi à mettre la main dessus et je ne me souviens plus si c'est traduit en occitan. Si quelqu'une des Abeilles Bergeracoises nous entend, merci d'envoyer la précision à Christophe qui fera suivre. Vous pouvez le trouver sur le site des Abeilles Bergeracoises à abeillesbergerac.free.fr. C'est très intéressant parce que ce sont vraiment des recettes collectées localement. Alors, à l'heure où on trouve des petits livres un petit peu partout, ou comment faire des smoothies, ou des cupcakes au air fryer, etc., je trouve que c'est quand même assez intéressant aussi de trouver des recettes simples, faciles à faire, avec les ingrédients qu'on trouve dans le quotidien.
Oui, alors voilà. Moi, je recommanderais aussi un livre en occitan. Là, il a été écrit directement en occitan, il n'y a pas de traduction, donc il est pour les 3 ou 4 personnes qui ne connaissent pas l'occitan, c'est dommage, mais bon, tous les autres pourront pouvoir le lire sans problème. Il s'appelle Pascal Laurent, c'est un monsieur qui est né à Génis, c'est du côté de Hautefort, et donc il se rappelle qu'aujourd'hui, bon, il est comme tout le monde, il a un certain âge, enfin du moins comme moi. Et donc, il se rappelle de toutes ces recettes. Il les a mises en livre. Il a écrit un livre. Et donc, il a écrit en occitan directement. On est à travailler tous les deux. C'est vraiment très, très bien écrit. Et en plus de ça, c'est un monsieur qui aime la bonne chère, qui aime vivre. C'est pas un périgourdin pour rien. Et donc, il a. c'est ça, ça dans cette, son écriture ça ressort quoi. C'est pas simplement une compilation de recettes. Non, 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 il explique bien que dans certains cas, il faut pas hésiter à mettre un peu d'Armagnac, même si l'Armagnac n'est pas périgourdin. Il faut pas hésiter à mettre voilà. Et puis bon, il faut que ça ait du goût quoi. Il faut en mettre assez quoi. Voilà, c'est très intéressant.
Alors comment
il s'appelle, je m'en rappelle pas. Je me souviens pas comment il s'appelle. Il en a écrit deux. Et là, il est en train d'écrire un livre sur les vieux métiers. C'est quelqu'un qui est très... Donc, il fait partie du Bourgnon du Périgord.
Alors, rappelle-nous son nom.
Il s'appelle Pascal Laurent.
Pascal Laurent. Il habite... Allez, on va partir à la recherche.
Aujourd'hui, il habite à Vincennes. Voilà, et donc...
Sur la cuisine...
La cuisine périgourdine.
La cuisine périgourdine. En tout cas, de mon côté, je vais aller rechercher et on vous donnera les références exactes la prochaine fois. Voilà, super. Voilà, parce que justement, je voulais conclure en disant qu'il était rare de trouver des choses en occitan.
Et oui.
Parce que quand les livres sont édités, il faut quand même qu'ils soient un petit peu écoulés. Et il y a quand même peu de gens capables de lire en occitan courant. Voilà. Et voilà.
Et déjà, écrire en occitan, c'est parce que c'est technique quand même. Il y a des mots. Oui. Alors, autrefois, c'est vrai qu'on parlait occitan, tout, il n'y avait aucun problème pour citer les ingrédients, tout. Mais aujourd'hui, on a du mal à se... C'est quand même technique, c'est quand même, particulier, quoi. C'est comme certaines choses qui ne sont pas courantes. Alors la cuisine, c'est très très courant, mais si on veut l'écrire correctement, si on veut l'écrire comme... Voilà. Et donc Pascal Laurent, il a bien réussi son coup, parce qu'en fait, lui, bon, il est né, bien sûr, il est né là-dedans. D'ailleurs, il va nous aider aussi pour les chansons, puisqu'il se rappelle quand il était petit, que pour les chansons de quête et tout ça, là, il le faisait, lui, les fameuses chansons de quête...
De printemps.
Il passait chez les gens,
Les quêtes de printemps, voilà. Oui.
Donc c'est un monsieur très intéressant.
C'est dire quand même qu'on manque de ressources.
Ah ouais, oui, c'est vrai.
Et qu'il faut profiter des personnes capables de nous donner le peu qu'elles savent, quand elles s'en souviennent, et voilà, et c'est une mine d'or. Eh bien voilà, mon affa est acabada.
On n'a pas beaucoup parlé occitan, mais enfin,
et nous
la cuisine, elle est occitane.
Quelle que soit la langue qu'on parle ici, de toute manière, on a des habitudes liées à notre terroir.
Voilà, exactement.
Au microclimat dans lequel on vit. Voilà.
Allez, on va écouter maintenant une belle chanson.
Oui, pour faire digérer un petit peu tout ça.
Ah oui, là, j'ai pas besoin de 4 heures.
Mauresco Fracas Dub, qu'on passe souvent ici sur Radio Grande Terre, mais c'est un grand plaisir. Et ça s'appelle Fai la route.
La vie d'espoir, boulot, fai la route, mino. La vie des pas le boulot, fai la route et l'ino, à l'angle d'or ou dans l'Ohio, au volant sans repos.
La route, le grand viaggio, le qui traîne les vents, les virages, la mare, l'océan, et ses rivages, la route à bout des amarrages, pas de stress, dès qu'une t'espère. Pose ton kiosque, le setti d'avant, pas du GPS, j'ai des barrières, j'ai des doganes, des longues avançant. On a l'eau, papa, c'est seul la route à toute la journée. Sur camin, papa, sur din la soute, sur seul estrada.
La vie n'est pas le boulot, fai la route et mino. À l'angle d'or ou dans l'Ohio, au volant sans repos. La vie n'est pas le boulot, fai la route et mino.
Le paysage file comme un pantail, baisse la vitre, gaite l'espandi per orte en ville, longue amaille, tramo les litres, s'insérer l'ambi, prentisais et avin l'outen, à fond ou taille, et la route nous teigne, la route king size à perdre la laine, mais pipille!
On a l'autre papa, tiens sur la route à toute la journée. Sur camin papa, sur din la soute, sur seul estrada. La vie n'est pas le boulot, fai la route et mino. À l'angle d'or ou dans l'Ohio, au volant sans repos. La vie n'est pas le boulot, fai la route et mino. À l'angle d'or ou dans l'Ohio, au volant sans repos. Bara, bolen, bara la, larga.
prendre rien. La vie n'est pas le boulot, fais la route et mino. À l'Angledoc ou dans le Ohio, au volant sans repos. La vie n'est pas le boulot, fais la route et mino. À l'Angledoc ou dans le Ohio, au volant sans repos.
On a voyagé, on est allé pas très loin finalement, hein, vers Montpellier à l'instant, avec cette formation qui s'appelle Moresca Fracas Dub, voilà, l'occitan décliné dans toutes les variations musicales.
C'est bien, oui, oui, en plus c'est la musique moderne, donc c'est tout à fait... après avoir parlé de la cuisine moderne, parce que même si c'est la cuisine ancienne, elle est moderne quand même.
C'est pour ça
que
quand on me dit cuisine ancienne, je me dis, mais enfin, c'est la cuisine qu'on fait aujourd'hui tout autant. Hein. Alors, je viens, pendant qu'on écoutait la musique, tout en même temps, je cherchais Pascal Laurent, et je trouve une interview de lui, passée par Nicolas Peuch, le dimanche 8 décembre 2024, donc vous le trouverez sur ici, sur Internet. Et donc, son livre s'appelle « La cuisine à la toupine, la cuisine à la tourtière ». Voilà.
Et c'est un occitan.
Alors, ça, il ne le dit pas. Ça, il ne le dit pas. C'est un petit peu dommage, parce que je... Voilà. Ce livre est disponible au prix de 15 € et on peut le commander par email à pascal-laurent24, donc pascal-laurent24@orange.fr, ou par téléphone, c'est rigolo, au 06 76 21 12 25. C'est drôle ça, de pouvoir parler quelque chose par téléphone à l'heure d'Internet, je trouve ça sympa.
Parce qu'en fait, c'est vraiment auto-édition. Quoi. C'est lui-même qui a tout géré, et donc il est dans aucune librairie, il est dans aucun... C'est presque associatif, quoi, je veux dire.
Oui. Donc ça sera forcément une diffusion très réduite.
Oui.
Donc voilà, écoutez, n'hésitez pas, on va laisser ces coordonnées-là à Christophe. Si jamais vous n'avez pas bien entendu, vous pourrez le lui demander. Voilà.
Allez, on continue, Christophe ?
Oui, en ce mois d'avril, on a plein de choses à raconter, Jean-Claude.
Allez, un petit peu de douceur, un petit peu de poésie.
Oui, une douceur après avoir mangé, c'est pas mal.
Ouais, mais oui, il y a les douceurs pour manger, puis il y a les douceurs aussi de l'esprit. Voilà, Max Rouquette, donc on parle souvent ici, on dit souvent du Max Rouquette, et on en dit, je sais qu'on le trouve souvent aussi dans les ateliers d'Occitan, parce que Max Rouquette, il était poète, il était écrivain, il a écrit des choses magnifiques en prose, il a écrit des pièces de théâtre, c'était vraiment un grand monsieur. Et donc voilà un poème qui s'appelle « La lingua s'est perdue ». La lingua s'est perdue au fond d'un bois. S'est perdue, régule la sous nos pas. Et c'est durbise la boucle et s'en résout. La lingua s'est perdue. A trop pas la bouse d'un carbonier entre les eaux. Ni mai la bouse d'un carretier. Ni mai aquello d'un ruscaire. Et les eaux sel volent sans nous. Lus que sabion. Comment sera la mort qui y parlava. Et les herbes en délembrant l'un nunca cabion. Che deguse la suono papus. Deguse per suona la frigulo, lo repunchum e lo renebre, e lo camis es perdut in camis. Ha perdut sul nun e mai sa sabatos. Sat papus un vai ni mai d'un ven, e serpatejo di naserbos per maniera, a trebordo lo scarreiru de salvagino, sa retrobo al bel tan juve che ronou, e verge come figlio nuso. Cerco sul nun a cado terme e nausis lo resu a la pairo plantado. Pluro din los rex das daucaris ruman, los ruman sum mor can abon per orto, e degun respumpas a sum plan, e lo biel cami se per in cami. E lo rei de callo e i partit abe per sempre mai, vui de zucareiru, onde penu se perder din luten, e rolas de non pas entendre ca ocovut li dire sul nun. Et lui qui la bouche et hésite pour parler, à qui est-ce qui parlait à la saume et qui faisait beurre le mieux, la terre y a tapé les bouches et sa place est bouillie dans l'air. envergognata di son parla, se son mesclata con qualche neblo, in caucucumbo a ras d'un rio. E quando la neblo s'è slevato, l'erbo lusiciò di nusclar das mil fiox de sas lagrimos, l'erbo cade l'embra su nun. E io de mori mut e nus per lo camin. L'anè solo per io e per lo mondo. L'anè solo per lo sblat e los homens. L'anè per accampar di safaudo de somi, lo somi escur da o paures che sian tutes, erbos, camin, ausel, peiros e flu, traces che sian e che lo sabem pas. L'anè che la baumo de sa tenebro, din sun des mort, conto sus diamant. Alors je vais vous le traduire quand même, parce que c'est intéressant. La langue s'est perdue. La langue s'est perdue au fond du bois. Elle s'est perdue. Personne ne l'appelle. Et s'il ouvre la bouche, c'est sans écho. La langue s'est perdue. Je ne trouve pas la voix du charbonnier dans les yeuses, non plus la voix du charretier, ni celle des tailleurs d'écorce. Et les oiseaux volent sans nom, ceux qu'ils savaient. Comme si c'était la mort qui leur parlait. Et les herbes ont oublié leur nom, car nul ne les appelle plus. Personne pour nommer la frigoulo, l'ouré punchou ou l'ouré nèbre. Alors la frigoulo, c'est le thème. Le répunchou, c'est la réponse que Marie-Hélène nous en a parlé il n'y a pas bien longtemps.
C'est le moment d'ailleurs.
Oui, c'est vrai. Et l'ouré nèbre, c'est l'oseille. Et le chemin s'est perdu en chemin. Et il a perdu son nom et ses sandales. Et il serpente dans les herbes pour la forme. Il retrouve les sentiers de la sauvagine. Il se retrouve au beau temps jeune où il était neuf et vierge comme fille nue. Il cherche son nom sur chaque borne et en entend l'écho à la pierre plantée. Il pleure dans l'ornière des chars romains. Les romains sont morts qui allaient par le monde. Et nul ne répond à sa plainte. Et le vieux chemin se perd en chemin. Et le roi de Caille, alors le roi de Caille, c'est l'oiseau. Et le roi de Caille est parti aussi pour toujours. Vide est le sentier où à petits pas il alla se perdre dans le temps. Il était là de ne pas entendre de voix pour lui dire son nom. Et ceux dont la bouche était agile pour parler, ceux qui parlaient à leur ânesse et faisaient boire le mulet, la terre leur a clos les lèvres et leur place est vide dans l'air. Rendu honteux de leur langage, ils se sont mêlés à quelques brumes dans quelques combes près d'un ruisseau. Et quand la brume s'est levée, l'herbe luisait dans les clairières, des mille feux de ses larmes, l'herbe qui ne sait plus son nom. Et moi, je demeure muet et nu par le chemin. La nuit seule pour moi et pour le monde. La nuit seule pour les blés et pour les hommes. La nuit pour recueillir dans son tablier de songe le rêve obscur des pauvres que nous sommes. Tous. Herbes, chemins, oiseaux, pierres et fleurs, nous tous, chétifs, qui ne le savons pas. La nuit qui, dans sa grotte de ténèbres, en ses doigts morts, compte ses diamants. Voilà, c'est un bel hommage à la langue. Alors, un autre, ça s'appelle Los Riuset, des ruisseaux, les petits ruisseaux. Los Riuset, canton papus, en délembrat sous nous. Graufigna de las espinas que estribaba un lumiral. Las espinas que tabé de l'embrero de sa paraulo. De nu vengu d'au deluvi, quand la terre era tout uno, et que d'une cumba a l'autre, los riuset eron cousi. De nu a s'estre mentir, de nu gisclat das aven, a mur resun tenebrus, un tout obus se perdió. De nu que tenion tout sul de caro au monde enemic, e caro son esvanit, et lo riu se amudit, et mudes la cantarelle qu'a du jocan à la housselle. Nous riusset canton papus, son escanas de bourdillos. A de quel service une nous? Les ruisseaux ne chantent plus. Ils ont oublié leur nom, égratignés par les épines qui déchiraient le miroir. Les épines qui aussi oublièrent leur nom. Des noms venus du déluge, quand la terre n'était qu'une, et que d'une combe à l'autre, les ruisseaux étaient cousins. Des noms à s'évanouir, des noms jaillis des gouffres avec un ténébreux écho où toute voix se perdait. Des noms qui tenaient tout seuls face au monde ennemi et qui sont maintenant évanouis. Et le ruisseau s'est tu, et muette est la chanterelle qui faisait chanter l'oiseau. Les ruisseaux ne chantent plus, ils sont étouffés d'ordures. À quoi peut servir un nom ? Voilà, un peu de philosophie, ça ne fait pas de mal dans ce monde. Voilà, c'est un très beau...
À quoi peut servir un nom ?
À quoi peut servir un nom ? Eh oui, c'est à désigner les choses, mais lorsqu'on ne désigne plus, il meurt, on n'en parle plus. Un peu de musique, monsieur le directeur de la radio.
Un petit peu de traditionnel hein, dans cette émission consacrée à la culture, la langue occitane, comme chaque mois.
J'en profite pour remercier Radio Grand-Terre de vouloir bien accepter de l'occitan. Parce que, bon...
Accepter, Christophe n'a pas l'air tellement malheureux.
Non, on est bien nourri, hein, je précise.
Non, c'est vrai que, bon, on entend un peu... On peut les citer, les radios sur lesquelles il y a l'Occitan. Il y a Alain Pierre à
sur REM, Radio Entre-deux-Mers.
Observatoire de Guyenne, oui. Voilà, donc il fait une émission magnifique. Et puis notre ami, tu en as parlé tout à l'heure... Nicolas Peuch, qui fait, bon, on peut en parler quand même.
Chez nos voisins de France Bleu Périgord.
Voilà, ici Périgord, là, maintenant.
Ici Périgord, oui, vous avez raison.
Ça a changé, tu n'étais pas au courant que
si, bien sûr, on reste connectés.
Mélon Bruche, ça s'appelle la Pitejoine d'Aureille. Je soupçonne un chant traditionnel.
Absolument, voilà. Avec une petite touche d'Étienne Roux.
Mélon Bruche, c'est des Périgourdins. Hein.
Avec Étienne Roux, qui participe à cette réalisation. Tout le monde a chanté en chœur dans le studio. La culture, la langue occitane, les poèmes et puis quelques hommages, Jean-Claude.
Oui, alors je vais vous lire encore un petit poème, toujours de Max Rouquet, qui s'appelle « Ce que je cherche ». On pourrait même dire « Ce que nous cherchons ». « Ce que cerque, Seigneur, est un fort de tas flou de tous aux ailes, est le désert, est la mar grande, et n'a aussi dans un quart de ta main. » Es lo mundenus de tas aubos, curo de tus detes tumbat, lis como un fillo sin raubo. Dor lo desert e caminat, e dor la mar e din la ne, conte lo munde se despulio, e din la claru de tus fiox, a ta flatingo s'abandono. Ce que je cherche. Seigneur, ce que je cherche, en dehors de tes fleurs et de tes oiseaux, c'est le désert, c'est la mer grande, soulevée encore par ta main. C'est le monde nu de tes orbes, lorsque de tes doigts il tomba, lisse comme une fille nue. Vers le désert j'ai cheminé, et vers la mer et dans la nuit, là où le monde se dépouille, et dans la clarté de tes feux, à ta caresse s'abandonne. Voilà, c'est un très joli poème. Alors, il nous reste...
Et la traduction aussi est très chantante.
Peu de temps, ah oui. Il nous reste peu de temps. Je voudrais quand même vous parler d'un livre qui est sorti il y a quelque temps. Petit manuel du toponymiste occitan de Jean-Rie Gouste, qui est vraiment un monsieur adorable. Chaque fois que je lui pose une question, dans le quart d'heure, c'est bien rare. C'est à condition qu'il soit devant son ordinateur, mais c'est bien rare qu'il ne me réponde pas. Voilà, et donc il a écrit ce livre qui est épuisé, qui a été réédité. Voilà, et donc c'est... Alors c'est un livre scientifique, mais qui n'est pas scientifique en fait. C'est un livre qui est très, très, très... Comment dire, il n'y a rien à dire, mais il n'est pas pénible à lire. Il est facile à lire. C'est vraiment à la portée de tout le monde. Voilà. Et là, par exemple, bon, il nous parle des peuples germaniques. Vous savez que autour de l'an 400, 500, les germaniques sont arrivés. Et alors, il nous explique que on nous a souvent parlé des grandes invasions, des invasions barbares des 4e et 5e siècles. Et en réalité, il y eut plutôt des migrations de peuples, des tribus plus ou moins importantes qui allaient vers l'ouest pour diverses raisons. Cela ne se passa pas toujours pacifiquement, mais dans l'ensemble, ce n'était pas un mouvement massif ni concerté. Les barbares, alors le mot barbare à l'époque, désignait, c'était les Romains qui les appelaient les barbares, parce que c'est ceux qui ne parlent pas la même langue. Bah, bah, bah. Voilà. Donc les Romains disaient, tiens, ceux-là, ils ont une langue bizarre, ils ne parlent pas la même langue que nous, donc ce sont des barbares. Et donc après, ça a été déformé, et donc c'est devenu barbare, et qui ne veut plus rien dire du tout. Ils essayaient de se tailler de petits royaumes, en profitant de l'affaiblissement et de l'effondrement de l'Empire romain. Ces barbares minoritaires se romanisèrent plus ou moins, la majorité perdit sa langue, pendant que les gallo-romains adoptaient des noms germaniques. Et de nombreux mots germaniques passèrent ainsi dans les parlers de ce qui n'était pas encore la France. Dans notre toponymie, nous rencontrerons donc trois catégories de noms. Le nom de peuple, donné à des établissements d'envahisseurs venus parfois de loin. Et des noms de personnes, donnés à une fondation, souvent des fermes fortifiées. Et des noms communs pour désigner divers éléments naturels. Alors parmi les noms de peuple, on a les Alains. Les Alains, donc Alain comme le prénom Alain, qui a donné Halle sur Dordogne, et qui a donné aussi Alaigne dans l'Aude. On a aussi les Alamans. Alors Alamans, c'est une fédération de peuples germaniques habitant entre Rhin et Danube, et qui a donné Allemand du Drau. Voilà, et un autre Allemand du Drau, donc en Lot-et-Garonne, et un Allemand en Dordogne, au-dessus de Ribérac, qui est sur la route d'Angoulême. Les Francs, bien sûr. Francs, ça veut dire hardi. Ça veut dire homme libre, d'ailleurs on l'a dit, après franc, franchise, etc. Ce sont des Germains de Rhénanie et de Belgique qui ont donné leur nom à leur petit royaume de France. Voilà, ça s'appelait la Francia, autour de 350. Et on a des villages comme Francou dans l'Aude, et on a un franc en Gironde, le village de Franc.
Voilà, c'est au-dessus de Saint-Magne de Castillon, Belvès de Castillon, les Côtes de Franc. Voilà,
c'est pas loin finalement d'ici.
Absolument. Ouais.
Les Goths. Scandinaves descendus vers le sud, puis divisés entre Ostrogoths, les Goths de l'Est, et les Visigoths, les Goths de l'Ouest. Les Goths, ça veut dire les Goths d'élite, brillants, qui viennent s'installer en Aquitaine. Alors on a Goths dans les Landes, on a Goths en Dordogne.
On a Goths et Rossignol, oui.
Oui, on a Goudou dans le Lot, Goudour en Corrèze, Goudourville en Tarn-et-Garonne, Villegoudou dans le Tarn, Goutz dans le Gers, oui, les Goudex en Dordogne, Goudex, Goudourvière dans le Gers. Et on a les Sarmatins, c'est un peuple des steppes entre Ukraine et Oural. Et on a Sermadiras en Corrèze. Sermadiras, je crois que c'est le nom des propriétaires des jardins d'Erignac. Les Taïfala, un peuple sarmate. Donc on a un endroit qui s'appelle Tafalechas en Corrèze. Toufaï en Lot-et-Garonne. En Tarn-et-Garonne, pardon. Et on a les Vandales. Alors les Vandales, qui n'étaient pas plus Vandales que vous et moi. Enfin, que vous, parce que moi je suis un peu...
De même que les Goths n'étaient pas gothiques, au sens
non,
où ils n'étaient pas maquillés de noir et ils n'avaient pas des boots à talons.
Donc les Vandales, ça veut dire les voyageurs. C'est un peuple scandinave qui traversa la Gaule, sans trop de vandalisme d'ailleurs. nous disons, pour aller s'établir en Espagne, la Vandalousie.
Ah.
Andalousie, la Vandalousie, ça s'appelle.
Ah, c'est pour ça.
Puis au Maghreb, donc ils ont fait du chemin quand même, parce que depuis l'Oural, là-bas, pour aller jusqu'au Maghreb. Et on a un Gandalou, en Tarn-et-Garonne, et on a Gandaya, en Lot-et-Garonne. Oui, Gandaya, oui. D'ailleurs, Tout-Faille, Gandaya, c'est tout près l'un de l'autre. Enfin, c'est pas tout près, non. Tout-Faille, en Tarn-et-Garonne, Gandaya, voilà. Et donc, après, on a les noms de personnes, mais ça, c'est un autre... Je vous le raconterai une autre
fois. Au prochain épisode.
Voilà, les noms germaniques, oui, il y a beaucoup d'ailleurs de noms germaniques. Bernard, il y a. Et donc, ils sont arrivés et ils avaient des noms très agréables, très jolis. Et les gens, finalement, ça leur a plu. Donc, ils ont dit, tiens, finalement, je vais appeler mon fils comme ça. Et même l'Église en a pris, puisqu'il y a des saints, Saint Bernard, voilà, l'Église a récupéré aussi des prénoms germaniques. Et on en a beaucoup.
On peut imaginer aussi qu'une fois installé ici, les gens établissaient des liens assez rapidement.
Bien sûr,
et donc, du coup,
bien sûr, voilà. Absolument. Absolument. Bien souvent, c'était où on prenait la langue du pays, où on prenait leur langue. Voilà. Oui, bien sûr. Oui.
Avant de nous séparer, on va revenir sur l'agenda avec ce mois d'avril, quelques rendez-vous. Notamment, on parlait de Sarlat tout à l'heure. Nous aurons un événement le 21 avril précisément, d'une langue à l'autre. C'est un rendez-vous consacré à la langue occitane, spectacle pour les jeunes, poésie et musique. Voilà, donc si vous allez en Périgord noir, allez-y, arrêtez-vous. Alors, c'est un petit peu lié aussi au patrimoine. En ce moment, en Périgord, c'est Château en fête. Vous pouvez donc visiter des lieux insolites en Dordogne. Ça va durer à peu près presque un mois, mi-avril jusqu'à mi-mai. Vous allez retrouver de jolis lieux, en tout cas. Et puis aussi, un très beau rendez-vous, la foire à la Latière.
La Latière.
À la Latière, oui. Ça sera le 30 avril et 1er mai, précisément.
C'est un joli mot occitan, Latière.
C'est une foire très ancienne. Hein.
L'étage, oui.
Alors on dit foire des voleurs, non pas parce que les marchands là-bas sont des voleurs, mais parce que les forêts alentour étaient de vrais coupe-gorge, oui. On dit. Oui.
Et puis parce que je crois qu'on trouvait la marchandise qui, quelquefois, était... venait de...
Ah, moi j'avais entendu dire qu'il était quand même assez dangereux de se rendre ou de revenir de la foire par la forêt, parce que, évidemment, cette affluence de gens porteurs de victuailles, d'argent, etc., attirait les convoitises.
Mais il n'y en a plus aujourd'hui, de voleurs.
Non, mais enfin, ce n'est pas les mêmes. Voilà.
Il n'y a plus de diligence, il n'y a plus de voleurs.
Voilà, on ne vole plus pareil. Voilà.
Voilà, et puis vos rendez-vous, les ateliers, durant ce mois d'avril, même si c'est les vacances, on peut-être
partager. Alors, l'atelier de Port-Sainte-Foy continue tous les mercredis après-midi. Alors, un mercredi pour les débutants. Alors, j'aime pas trop cette distinction parce qu'on peut venir à chacun des deux ateliers comme on a envie, mais un des ateliers est consacré à l'acquisition des fondamentaux avec le livre Parli Occitan de Jean Rigouste. Et puis le mercredi suivant, on utilise le livre Aubet, voilà, mais on peut, tout niveau, voilà, tout le monde est le bienvenu. Et on va continuer jusqu'au 27 juin, où notre atelier fera une journée portes ouvertes avec une auberge espagnole, je le redirai le mois prochain et le mois d'après, à laquelle vous êtes tous et toutes conviés.
Jean-Claude, quelques rendez-vous aussi toujours, en Périgord.
Oui, c'est le lundi matin, donc 10h30 à midi, et le mercredi, 14h30 à 16h, et à Saint-Laurent-des-Hommes, le vendredi, de 15h à 16h30.
Voilà, donc si vous nous écoutez, vous organisez un événement culturel autour de la culture occitane, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message.
Hein, on en parlera.
On en parlera sur la radio, et puis aussi on reviendra sur l'événement qui est bien sûr incontournable chaque année, la Félibrée. Alors on rappelle peut-être le lieu cette année, Jean-Claude.
Sur Bandia.
Très bien,
voilà,
c'est noté.
C'est la banlieue de Nontron.
Ouais.
Voilà, je crois qu'ils sont très 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 très... pushing, c'est pas un mot occitan, mais ils sont très...
enthousiastes.
Ils sont très enthousiastes, en belle coupe des Vammes et d'Estrambord. Voilà, et donc je crois que ça va être une belle Félibrée. Oui.
Nous en reparlerons, on va se quitter avec une autre sélection musicale dans cette émission, L'Idescence.
Oui.
Voilà. Et on va aller sur la montagne.
Era Montaño, ça veut dire la montagne.
On se dit au mois prochain.
Allez, allez, chante.
Cherchez bien les œufs. Et au mois prochain pour d'autres aventures sur la radio.
Et un grand merci à Radio Grande Terre.
Ara muntanya, mamaire, ara muntanya. Ara muntanya, que en joguen de piolú, mamaire. Ara muntanya, que en joguen de piolú.
Tú lo sabes, mamá. Soy una niña buena, siempre dispuesta, pero es que a veces...
Se vas en danzo, tu mar y te embatra, mamá, iré. Se vas en danzo, tu mar y te embatra. Embate, embate, mamá, iré. Se embate, embate. Se embate, embate, mamá, iré. Se embate, embate. Se embate, embate. Yo que me tornaré, mamá, iré.
Se embate, embate. Yo que me tornaré.